des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Sayer, votre compagnie une nouvelle fois cette semaine. Vous m'écoutez peut-être en balado, vous m'écoutez peut-être à CKVL ou vous m'écoutez à Canal M qui produit cette émission qui se dédie exclusivement aux livres qui s'écoutent, aux livres audio, d'où l'expression des livres plein les oreilles. Aujourd'hui, je reçois Joanne Seymour, autrice, et Sophie Fauché, lectrice de Le goût de l'élégance, écrit par Joanne Seymour. Un livre délivrance, tiens, peut-être, pour les personnes atteintes de dépression. Une écriture qui colle merveilleusement bien à la peau de Sophie Fauché, qu'on imagine bien sous les traits de cette libraire, cette Simone Vendredi, qui va croiser les chemins improbables d'un certain Crusoe et d'autres d'ailleurs homonymes littéraires. Vraiment une fable à se mettre entre toutes les oreilles. En seconde partie, je vais accueillir Faline Bobier qui nous amène sur des terrains british, policiers ou encore diablement d'actualité quand on pense aux centaines, aux milliers de tombes anonymes qu'on découvre et qu'on va continuer de découvrir. Partout au pays, on parle bien sûr de ces enfants autochtones. Et puis enfin, j'ai pour vous des nouveautés dans le domaine du livre audio, histoire de vous mettre la puce à l'oreille. Ils seront agrémentés d'extraits, bien sûr.
Je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Simone, la libraire au tailleur jaune qui rêve d'une vie autrement. Je dis libraire, enfin, presque. Je m'occupe de la section livres dans une grande surface, où l'on me refuse le titre de libraire pour ne pas avoir à me payer un salaire décent. Je suis donc une simple vendeuse. Il y a bien mon collègue à qui le propriétaire a donné le titre de gérant adjoint pour justifier son salaire plus élevé, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, Mon existence ressemble à celle de toutes les femmes qui triment dur pour mettre du pain sur la table de leur solitude ou sur celle de leur famille. Je me lève tôt, prends l'autobus puis le métro, use mes genoux à faire des allers-retours sur le béton, reprends les transports en commun et me couche le soir, le dos éreinté, levé contre mon chat, un livre ou une bouteille de vin. Je n'ai donc pas de récit épique à narrer, juste une grosse envie de fracasser la baraque. Ma mère ne serait pas fière de moi, elle qui n'a jamais rien cassé. Bien sûr, il a fallu que maman soit résiliente pour survivre à son enfance, mais elle n'avait pas l'âme d'une guerrière. C'était une souris dans le corps d'une lionne, une rescapée, qui n'avait plus la force d'entreprendre une autre bataille. Nul besoin d'un tsunami pour l'emporter, un souffle aurait suffi.
Les mots sont ceux de Joanne Seymour, la voix c'est celle de Sophie Fauché. Bonjour vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous vous connaissez?
Oui.
Ah, vous vous connaissez dans la vie, là.
Oui.
Non, non, ben parce que parfois on me répond non, pas du tout, je suis content ou je suis contente, mais vous, vous vous connaissez. Bon, alors vous êtes amis Facebook et tout le tralala, là.
Ben, on a, dans une carrière lointaine, enfin il y a un certain temps, Joanne était comédienne, et oui. Très bonne comédienne, et on a eu la chance de jouer ensemble.
Et pourquoi
et de la tournée.
Oui. Et était, pourquoi était? Parce qu'on ne vous verra plus jamais, Joanne? Non.
Je fais d'autres choix.
Oui, ok. Dont le choix de l'écriture, Joanne Seymour. On vous connaît beaucoup pour des livres polars, pour le noir. Vous aimez ça, vous adorez ça, et les lecteurs aussi. Mais là, on est avec le goût de l'élégance dont nous allons parler aujourd'hui parce qu'il vient d'être enregistré par Sophie Fauché maintenant et il est disponible au catalogue Vues et Voix Livre Audio. Vous êtes dans quelque chose de complètement différent, quoique on n'est pas non plus bien bien loin de La beauté intérieure, qui était l'un de vos titres, et c'était important que ce soit ce titre-là. Et c'était une enquête là, du commissaire. Comment vous dites en audio?
Rinzen.
Rinzen. Oui. Donc, on est très loin, mais...
C'est une saine évolution.
Ah, c'est ça, hein? Le paraître et l'apparaître, c'est là encore très, très fort. J'aime bien Joanne Seymour. Je vais commencer avec Joanne Sophie Fauché, si ça ne vous dérange pas. J'aime bien commencer par la fin. Et la fin de vos mots, non pas la fin du livre en tant que tel, parce que ça, je vais laisser les lecteurs découvrir cela tout seul, mais rien que ces mots dans les remerciements. Quand vous écrivez, Joanne Seymour, merci à ceux et celles qui contribueront à la diffusion de cette fable. Elle est importante pour moi, mais je crois également qu'elle est de son temps et qu'elle pourra semer un peu d'espoir dans cette époque trouble où nous vivons. Elle est importante donc aussi pour vous, cette histoire, Joanne Seymour. C'était important que vous...
Oui, c'est... L'idée m'est venue en tête il y a 3 ans, peut-être bientôt 4 dans le fond. Et c'est quelque chose qui m'inquiète, cette tangente de la société en ce moment. C'est vraiment ça, c'est un manque d'élégance du cœur, des sentiments, des idées, de la façon de communiquer. Et je ne parle pas d'élégance en termes... c'est pas superficiel.
Non, c'est ça. On n'est pas dans le paraître, on est dans l'élégance du geste. On est dans l'élégance de la parole et du geste et du mot.
Hein? Et de l'attention et de l'attention à l'autre.
Oui.
Parce que la réflexion a commencé quand j'ai vu la dérive sur les réseaux sociaux et je m'interrogeais aussi. C'est des choses aussi stupides que les gens qui se frappent sur la rue puis qui ont... Il n'y a plus d'excuses qui est faite, tout est devenu tellement individualiste. Tout est centré sur l'être, sur le paraître, sur soi, sur son besoin. Et c'est quelque chose qui m'obsède, en fait.
Oui, je comprends. Je comprends. Ouais. Et vous, Sophie, le terme d'élégance avec ça vous va à merveille. Hein. Souvent, c'est un mot que j'entends associé à vous, et pas seulement encore là, comme nous le disions sur le paraître, mais sur l'élégance justement du mot et du geste.
Vous, c'est gentil.
Oui, mais c'est vrai. De toute façon, vous le savez, je vous apprends rien.
Je suis entièrement d'accord.
Ben, mais moi, je c'est pas tout à fait. Enfin, l'élégance. J'ai vraiment plongé dans ce livre avec bonheur. Il m'avait plu et j'étais touchée qu'on pense à moi. Mais je sais pas, ça va vraiment avec le cœur. C'est très lié pour moi. Dans le sens, j'ai été élue avec des phrases du genre « Tu es l'artisan de ton propre esclavage ». Ça, c'est Françoise qui m'a dit ça, mais je veux dire, ça m'a un peu obsédée. J'ai eu du mal à comprendre, mais ne va pas faire aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Ouais. Et puis moi, je ne tolère plus. On ne peut plus me traiter comme on m'a déjà traité. Ouais. C'est simple. Je change de trottoir, mais c'est pas grave. Je suis entourée de gens bienveillants, gentils et qui prennent le temps. Et c'est la gentillesse, justement. C'est loin d'être dépassé. C'est comme une qualité première.
Absolument.
Dans mon entourage. Mm.
Et le pire, c'est que lorsque, malheureusement, autour de nous, le manque d'élégance se fait ressentir et qu'on se permet de le dire à haute voix, on passe pour... finalement, c'est presque nous qui manquons de civisme, quoi. C'est fou, ça, non?
Mais il faut pas avoir peur de dire les choses. Non. Et je trouve que, justement, avec élégance, on peut en dire beaucoup.
Oui. Moi, oui. On peut être une grande gueule avec élégance, voilà.
Moi, j'ai vouvoyé un metteur en scène et j'ai gardé le vouvoiement et ça m'a permis et ça m'a autorisé de dire vraiment le fond de ma pensée. Ouais. Et ça fait du bien.
Ouais, c'est vrai. Bon, Joanne, je me retourne vers vous. Donc, nous faisons la connaissance de Simone Vendredi qui déclare au tout début du livre... Je sombre dans un monde sans élégance, sans tendresse et sans magie, nous venons d'en parler. C'est l'histoire d'une mort et d'une renaissance, cette fable.
Ben, oui,
j'aimerais que vous nous fassiez un petit résumé pour les gens qui nous écoutent.
Ben, je pense que, en fait, c'est l'histoire de Simone Vendredi, très simple. Elle est dans une période de sa vie où c'est la thématique du livre, où elle se rend compte que tout autour d'elle, la Grèce... Elle est dans un maelstrom de petites violences, comme je le dis, et elle est dans une période de sa vie où elle flirte avec l'idée de mettre fin à ses jours, parce qu'elle en peut plus, parce qu'elle est au bout du rouleau. Et comme elle est à ce point où elle en est dans sa réflexion, il arrive un incident à Verdun qui fait qu'il y a une explosion, puis il y a un enchaînement, elle perd son travail, elle revient en autobus, et elle voit une affiche dans une vitrine qui demande une libraire. Et après quelques jours où est-ce qu'elle essaie de se convaincre d'y aller, elle y va, et sa vie va changer à partir de ce moment-là, parce que cette librairie-là a quelque chose de magique.
Oui, absolument.
Et là, elle va apprendre... l'empathie, la solidarité, que l'autre existe, qu'il y a toujours une main tendue et qu'il faut la voir, cette main, mais qu'il y en a. Et c'était ça, c'est ce que je voulais dire, en fait.
Mais il y a des mots qui frappent très fort, et pas que l'imaginaire, moi, qui m'ont vraiment frappé et qui m'ont fait mal aussi, certainement parce que chacun d'entre nous a vécu à un moment donné un ou plusieurs passages un peu troublés. On est d'accord, plus ou moins profondément, mais qui n'a pas déjà vécu ce moment-là où on se demande ce qu'on fout sur Terre, finalement. Et il y a ces mots, l'évidence me frappe soudain. Non seulement je ne sais pas qui je suis, mais j'ignore ce dont je suis vraiment capable. Je suis accablée par le vertigineux constat que ma vie entière est à réinventer. Je sors de ma cachette. Elle sort de cette île déserte dans laquelle elle s'enlise, finalement. Ouais. Et puis, il y a ce naufrage. Et quand il y a un naufrage et qu'on s'en sort vivant du bateau, faut bien continuer à nager. Alors, elle va tomber sur une autre île, cette espèce d'îlot littéraire, hein, comme vous l'expliquiez très bien, qui est peuplée aussi de quelques écorchés de la vie qui semblent, eux, s'en être sortis et qui font preuve de cette compassion et de cette ouverture d'esprit et de cette élégance dont elle a tant besoin. Sophie Fauché, vous avez dû être touchée par ces, par ces London et Alice Carroll et, et autres Guillaume mm-hmm. Dumas hein, qui composent cette équipe.
Ah ben oui, on a envie tous de travailler dans cette librairie.
Oui.
Ou en tout cas, ou de la fréquenter comme acheteuse, parce que c'est des sacrés personnages et puis c'est un lieu d'accueil extraordinaire.
Oui, oui, oui.
Et non, c'est ça. Ce livre m'a même aidé, personnellement, parce que
ah oui, hein.
À un moment donné, elle tombe, la libraire se rend bien compte qu'il y a une jeune femme là qui est sensible et elle se rend compte que cette jeune femme a perdu son enfant.
Mmh.
Hein? Et j'aidais une amie qui venait de perdre son enfant. Mmh. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait?
Mmh.
Et l'important, c'est d'être là. Mmh. Avec comme on peut. Ouais. Et je veux dire, donc il y a des. Enfin, il est très très habilement mené.
Oui.
Et,
oui.
Et je sentais tout au long de cette histoire la vérité de la plume de Joanne. Alors j'étais vraiment contente d'être
sur cette lecture. Oui. Hein. J'aimerais qu'on écoute un autre extrait parce que je dois dire que ben ça aussi c'est le talent de comédienne, de narratrice hein, qui vous appartient, mais. Tu sais, quand on dit ces mots vous appartiennent, enfin, en vous écoutant, je ne pouvais pas imaginer une autre voix, une autre femme que vous lire, être à son tour, Simone Vendredi. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait de Le goût de l'élégance, dont nous parlons en ce moment à l'émission Des livres pleins les oreilles, avec Joanne Seymour et Sophie Fauché.
Je suis une ville perpétuellement bombardée et malgré les murailles que je passe mon temps à ériger autour de moi, en dépit des verrous que j'installe sur mon cœur, je ne parviens jamais à me protéger. Je voudrais riposter à l'abruti devant moi que je préfère être grosse à ses yeux que grossière, mais je n'y arrive pas. La source de mes réparties colorées, autrefois intarissables, a cessé de couler. Je suis à sec, fatiguée et sans courage. C'est que, depuis un moment, je perçois ma vie comme un slam cru, dur, effréné, d'où l'on aurait retiré toute la poésie. Une logorée sans point ni virgule qui m'empêche de respirer. Je suis prise en otage dans ce tourbillon qui m'agresse et me hante, et je voudrais que ça cesse. Je souhaiterais que mon existence soit mise sur pause et que les mots soient vidés de leur sens. J'ai une envie furieuse logée en permanence au fond de la gorge, comme une pulsion de bonheur avorté. J'ai le goût de l'élégance. J'ai le goût de chuchotements qui apaisent et de choux à la crème qu'on déguste du bout des doigts. J'ai le goût de mots qui insufflent l'héroïsme et de cœurs qui s'abreuvent à l'humanité. J'ai le goût de « je t'aime » glisser dans un regard à la dérobée. J'ai le goût de pluie fine, de soie et de compassion. J'ai le goût de murmures rassurants et de pardon. J'ai le goût de nuages qui s'effilochent et de gestes comme des caresses, de promesses tenues et de serments partagés, de sentiments enveloppants comme une doudou, de nuits chaudes, de matins légers et de chocolat qu'on mange sans culpabilité.
Ah, on est tellement là. Bravo Sophie, quel beau boulot.
Hein, c'est gentil.
Joanne, hein, vous avez dû être là quand vous entendez ça.
Ouais, non, je suis très émue. C'est assez particulier là, ce qui s'est passé. Ça ne m'était jamais arrivé d'avoir un de mes romans qui soit lu. Et dès que j'ai commencé l'écoute, j'ai complètement oublié que j'avais écrit ça.
Wow.
C'était les mots de Sophie. Ça m'a touchée.
Oui.
Ça me touche encore à chaque fois que je l'entends.
Ah oui, elle s'approprie tout ça avec. Ouais. Ah, c'est vraiment formidable à écouter.
Mais c'est pas tout. Moi, je suis entrée dans cette histoire et dans ces personnages vraiment avec bonheur.
Ouais.
Et à tel point que je vais vous dire ça, là, en ce 14 juillet, moi, je veux jouer ça au cinéma.
Ah oui.
Il faut faire un film.
Ouais.
Il faut que ça. Pour moi, c'est comme La vie devant soi d'Émile Ajar. C'est comme il y a un univers là magnifique, et puis ça se passe dans le centre-ville du sud,
oui.
Du côté de Verdun et tout.
Oui.
Il y a une vie.
Et surtout qu'il y a des images, Sophie. Enfin, écoutez, je raconterai pas, mais la scène de l'Action de grâce là. Moi, la scène de l'action grâce, là, je pleurais, je riais, mais je veux pas la raconter plus parce que je veux que les gens la découvrent.
Mais moi, je l'ai pas encore entendue. Je dois vous avouer, c'est mes premières fois que j'entends des extraits. Ah. Alors, c'est pas facile pour moi parce que
j'ai fait ça
trop vite ou je sais pas quoi. En tout cas,
lâchez-nous avec ça. Dites-moi, mesdames, il y a deux éléments dont je voudrais qu'on parle parce que pour moi, c'est essentiel. Les violences invisibles. Ça, c'est une référence marquante dans le bouquin, c'est-à-dire ces violences qui ne laissent pas de traces apparentes. On est combien à en souffrir de ces violences-là, dont on parle encore peut-être moins que ceux qui vivent des abus physiques et psychologiques hyper violents. Bah, nous, c'est des trucs invisibles, hein. Alors dans le cas de Simone, c'est un peu ça aussi. Et je vous remercie, moi, Joanne, d'avoir mis de l'avant ces violences-là, qui peuvent être tellement destructrices, castratrices, annihilantes. Hein, vous êtes d'accord, Sophie? Sophie Fauché.
Oh, complètement, complètement. Oh oui, on parle de passif-agressif, l'air de rien, on nous blesse juste ce qu'il faut. Non, mais c'est très joliment dit, ça, c'est violence invisible.
Ah là là.
Alors, mais l'important, c'est de les détecter, puis de plus laisser faire.
Non, c'est ça, exactement. et de trouver des solutions. Et là, je voudrais vous demander à toutes les deux, à un moment donné, il est dit aussi, je ne sais plus si j'ai la phrase, il y a le secret, c'est qu'on n'est plus jamais seul, ça, celle-ci, elle est importante. Voilà, citation. T'es dans une librairie, Simone. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour soigner les mots et sustenter le cerveau. Pensez-vous, Joanne Seymour, Sophie Fauché, que les livres puissent avoir une vocation curative?
Non. Moi, je crois oui.
Oui,
crois
totalement.
Profondément. Et je dirais ceci, au risque de passer pour folle un peu, mais tous les livres ont tous les genres ont cette possibilité-là. Parce que à écrire du polar, là, qui a longtemps été tellement mal vu, mais moi, mon premier polar que j'ai écrit s'appelait Le cri du cerf, et ça traitait d'une femme qui, mon héroïne, son père a tué sa mère et son frère devant ses yeux, OK? Et j'ai été tellement surprise au premier salon du livre quand une jeune fille de 16 ans est venue faire signer un bouquin et elle était accompagnée puis elle pleurait à chaudes larmes. Je comprenais pas ce qui se passait. J'ai regardé son amie puis elle m'a dit, elle a lu votre livre et elle veut vous remercier parce que ça lui est arrivé. Et là, j'avoue que j'étais... Ouais, c'est ça. Et elle me dit, elle veut vous remercier parce qu'elle comprend qu'elle peut s'en sortir. C'est un polar. On s'entend.
Oui, absolument, absolument. Okay. Oui, absolument.
Alors, tu sais, j'ai compris ça et jeune, c'est ça aussi moi. Ouais. Je veux dire, moi, je viens d'une famille qui était pas du tout cultivée, pauvre les livres m'ont sorti de ça. Les livres m'ont montré la voie. Les livres m'ont rendue curieuse. Les livres m'ont dit, faut que t'en lises plus. Les livres ont excité quelque chose en moi que mon milieu était incapable d'exciter. Mais je veux dire, je suis amoureux de mes parents, là, mais la réalité était telle qu'ils travaillaient très, très fort pour juste arriver à survivre.
Oui.
Alors, et je pense que de donner accès à des livres de quelque façon que ce soit aux enfants, c'est la façon de les sortir de la misère ou de l'inculture.
Absolument. Mais d'ailleurs, il y a aussi une très jolie scène, hein, je ne veux pas en déflorer trop, mais enfin, où à un moment donné, ils se demandent, mais toi, quel est le livre le plus important pour toi? Puis elle répond, Les fleurs du mal, mais chacun a son livre comme ça. Et les livres, et en plus, vous en citez beaucoup d'auteurs ou d'autrices. Moi, j'étais contente. Claudia La Rochelle est là, avec sa petite doudou qui pue. Dans le genre moins facile, Mein Kampf, mais ça, c'est la scène, le passage, et c'est vrai, ça, en plus, il y a un Mein Kampf, effectivement, d'Hitler, qui vient de ressortir une nouvelle parution commentée, hein, parce que sinon, il n'aurait jamais pu le faire.
Oui, elle l'explique, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Exactement. Et moi, je venais juste, il y a quelques jours, d'en entendre parler, je fais « waouh ». Parce que les livres aussi ont ce pouvoir-là, c'est de nous tomber dans les mains à un moment donné où il faut qu'ils nous tombent dans les mains. Moi, ça, ça me sidère toujours.
Clotilde.
Oui.
Excusez-moi de vous couper, mais je dois vous avouer que j'ai même ajouté mon livre, mes livres de Frida.
Ah!
Mais il fallait pas le dire, Sophie.
Mais oui, ça me fait rire parce que ça prouve l'amitié.
Mais
parce
oui.
Est-ce que tu as des livres pour enfants? Est-ce que tu es au courant de? Ah non? Ben, tu peux le faire. Alors, ça m'a vraiment fait rire. Donc, il y a une petite diversité. Il y a entre la version originale que vous avez entre les mains
oui.
et la version audio.
D'accord.
C'était ça. Mais je vais être très honnête, si j'avais, je ne connaissais pas l'existence de Frida.
De mes livres.
Non, c'est ça.
Sophie, je ne connais pas beaucoup la littérature jeunesse.
Ben non, mais c'est ça, mais c'est drôle.
Mais c'est drôle, ah oui, non, c'est génial. Mesdames, cette discussion tire à sa fin. Oui, je sais, ça passe toujours trop vite, puis je suis contente en même temps que ça passe vite, mais... Il y a une phrase sur laquelle je voudrais rebondir avant qu'on se quitte. C'est quand elle affirme, Simone, on est plutôt dans les dernières pages, qu'elle comprend enfin que sa vie est un voyage et qu'il ne fait que commencer. Donc, elle est en voie de renaître à la vie. Vos vies à vous, mesdames, Joanne Seymour, Sophie Fauché, se poursuivent. Le voyage se poursuit. Joanne Seymour, vous travaillez sur quoi en ce moment?
Oh mon Dieu, sur un prochain roman pour adultes, un roman jeunesse et deux séries télévisées.
Bravo. Et puis alors Sophie, il va y avoir entre le 1er et le 6 août prochain sur la scène du Diamant dans le cadre du Festival d'Opéra de Québec, cet événement fantastique alors que vous allez prendre les traits de Maria Callas qui a tant à en apprendre aux apprentis chanteurs. Quelle aventure!
Ouais, je suis en pleine répétition, mais en fait, j'ai un été incroyable, que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Parce
plus
que
Frida avant, Kahlo, oui.
Le 22 juillet, je suis à la Place des Arts avec Frida Kahlo et mes mariachis, et en reprise le 1-2 novembre. Ouais. Et le 12 août, à la Place des Arts encore, à la 5e salle, ça c'est assez amusant, on avait joué il y a 30 ans, on avait ouvert la salle de l'Espace Go avec Inventaire de Philippe Mignana, en compagnie de Suzanne Champagne, Diane Lavallée et moi, spectacle dans lequel on composait des femmes de 60 ans et qui sont, le prétexte de ça, ce sont des entrevues avec des Françaises que Philippe Mignana a fait et qui leur a demandé quel serait l'objet qui est le témoin de votre vie ou qui vous correspond le mieux. Ces trois femmes viennent se raconter avec un objet. Et on a créé ça il y a 30 ans.
Et vous
et bon, on composait des femmes de 60. Bon, il paraît qu'on a l'âge. Je ne sais pas de quoi on parle. Mais donc, on se retrouve les trois.
Bon.
Et c'est un bonheur avec Louise Laprade qui nous redirige.
Merci.
Donc, en moins d'un mois, moi, je vais être Frida, Maria, Barbara...
Et Sophie Fauché, que je vais interrompre pour avoir le temps de lui dire au revoir. Vraiment, je vous serre fort contre moi. Mesdames Joanne Seymour et Sophie Fauché, vous avez fait mon bonheur dans les jours qui ont précédé l'enregistrement de cette émission. Enregistrée, merci. Oui, un 14 juillet, mais qui sera diffusée à partir du 22 juillet sur le web. Salut.
Ah, salut.
Des livres plein les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie de cette émission, on va retrouver volontiers Faline Bobier qui nous rappelle que la lecture audio, avant d'être commerciale, est surtout et avant tout une lecture accessible pour la communauté des bouquineurs qui n'ont plus la possibilité d'avoir accès à l'imprimé et Caeb est là pour cela. Elle nous arrive avec la famille Bridgerton, mais aussi avec une nouvelle enquête d'Hercule Poirot et avec un livre tristement et précisément d'à propos, Cheval indien. Pour finir l'émission, je vais avoir pour vous des suggestions de livres d'été. D'été, je ne sais pas, mais en tout cas du polar, des choses comme ça, des choses qu'on lit, oui, volontiers en été. Tout cela avec des extraits, bien évidemment. Et bonjour Faline.
Bonjour, ça va?
Ça va très très bien, merci. Et puis merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Je sais que ça vous demande un peu de boulot, préparer tout ça, sortir des extraits et tout ça bénévolement, bien évidemment. Alors je voulais le préciser, merci de faire ça pour nous et pour la communauté des personnes non-voyantes qui restent fidèles à cette émission, Faline.
Merci à vous aussi. Et je pense que, comme vous avez dit, c'est très important d'essayer de faire connaître ce qui existe
Mais
en format
audio.
Ouais, c'est ça, oui.
Et audio, et comme je le dis souvent aux non-voyants, bon, le format commercial n'est peut-être pas aussi accessible, mais c'est toujours de l'audio qu'on peut se glisser entre les oreilles. Et maintenant, avec les téléchargements, c'est une autre façon aussi d'écouter tous ces livres qui se font. Mais là, parlons de livres adaptés, hein, vraiment, et qui sont lus, je le redis, je le reprécise, par des personnes absolument bénévoles. Je voudrais qu'on commence avec Cheval indien, parce que comme je le disais en préambule, c'est quand même tristement et précisément d'à propos que ce cheval indien.
Oui, c'est vrai. Comme tout le monde sait, la découverte de tombes anonymes, à travers le Canada, c'est vraiment quelque chose d'horrifique, mais c'est quelque chose que les Autochtones connaissent très bien depuis longtemps que ça existait. Et dans le livre de Richard Wagamese, qui est d'origine Ojibwe, du nord de l'Ontario, il a écrit son livre « Cheval indien ». Ça a été publié en anglais en 2012, je crois. Mais c'est vraiment une histoire qui montre comment il s'agit surtout des réalités, des dures réalités du Canada des années, 60, ouais. 70. Ouais. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui est victime d'un de ces pensionnats menés la plupart du temps par les religieux. Où vraiment les jeunes autochtones ont perdu leur langue,
leur identité, surtout.
Oui, c'est ça.
Leur culture, oui. Leur identité en général. Et parfois leur vie.
Oui.
Comme on le découvre en ce moment. Alors, qui est ce Saul, le cheval indien? C'est un jeune homme?
Oui, qui a été élevé par sa grand-mère sur les terres ancestrales. Mais quand elle meurt, puisque ses parents sont absents, les autorités le découvrent et le placent, ou le forcent plutôt, dans un pensionnat destiné aux Autochtones, où on interdit bien sûr l'utilisation de leur langue, Ojibwe. Et une fois qu'il est là, il est témoin des abus sur les enfants par les religieux. Mais pour lui, il semble avoir un échappatoire dans le sens qu'il il y a un père, Gaston, qui inaugure une activité de plein air, c'est le hockey sur glace. Ouais. Et Saul se montre très doué pour ce sport. Donc, c'est un peu l'histoire de comment il essaie de sortir de ce pensionnat, de sortir
De cette condition-là, oui.
Oui, oui.
Via le sport, par rapport à le sport.
Ça, oui. Je pense que dans ce livre, il y a, je me rappelle plus son nom, mais il y a un homme autochtone qui a plus ou moins, sa vie a plus ou moins suivi ce trajet. J'oublie son nom. Et Wagami, c'était toujours très, il aimait beaucoup le hockey, il suivait le hockey dans la vraie vie.
Donc là, on ne parle pas d'un joueur, parce que là, il y en a quelques-uns qui me reviennent en mémoire. Il y avait un certain Ojik, je pense, qui a joué d'ailleurs longtemps au Canadien de Montréal et qui était issu d'une communauté autochtone. Ça, je m'en souviens bien.
C'est peut-être ça, oui. Ouais, ouais.
Bon, alors, on en écoute. Oui, pardon, je vous ai interrompu. Okay.
Excusez-moi.
Non, c'est moi. C'est ça au téléphone. Hein. Comme on ne se voit pas la binette, c'est pas facile.
OK, on va écouter l'extrait.
D'accord.
Nous passons nos journées en cercle. Parler me fatigue, me lasse, me donne envie de boire. Mais je tiens le coup. Et quand mon conseiller attitré, Moses, me convoque dans son bureau pour un tête-à-tête, je tiens le coup aussi. Je suis ici depuis un mois. Avant, j'ai passé 6 semaines à l'hôpital, ma plus longue période de sobriété depuis des années. Ce séjour n'est donc pas tout à fait inutile. Mon corps me semble plus fort. J'ai les idées claires. Je mange avec appétit. Mais, disent-ils, le moment est venu de passer aux choses les plus difficiles. pour vivre en paix avec nous-mêmes, nous devons raconter notre histoire. Je ne peux pas raconter la mienne dans le cercle. Ça, au moins, je le sais. Il y a trop de tri à faire. Les rares fois où j'ai ouvert la bouche, j'ai vu les plus jeunes gigoter sur leurs chaises. Ils ne me croient pas, ou alors mes propos les mettent en colère. De toute façon, je ne peux pas parler dans un tel contexte. Moses m'a donné la permission de mettre les choses par écrit. C'est ce que je vais faire. Puis je poursuivrai ma vie quelque part.
Voilà, alors donc ça donne ce livre-là, Cheval indien, dont vous nous parliez, Faline Bobier. Là, on change complètement, on s'en va dans une autre époque, on change de pays, de continent, et on s'en va chez les Bridgerton.
Oui.
Alors, les fameux Bridgerton qui ont donné lieu à une série sur Netflix qui a énormément fait parler d'elle. Et donc, là, voilà, est-ce qu'il y a seulement le numéro 1 qui est sorti en version accessible ou est-ce qu'il y en a d'autres?
C'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse. C'est parce qu'il faut que j'admette que moi, je n'ai pas encore lu le livre parce que je ne suis pas vraiment fan de ce genre. Et quand j'ai entendu parler de la série télévisée, comme vous dites, c'est un peu où j'avais pensé, c'est un peu à la Downton Abbey, mais peut-être un peu plus risqué. j'ai commencé à regarder la série télévisée, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, je l'ai regardée jusqu'à la fin.
Elle s'est fait avoir par la magie des Bridgerton.
Oui, oui. Alors, je pense que je vais me mettre maintenant à vraiment à lire la série.
Alors, sinon, vous pouvez aussi l'écouter en version audio commerciale.
Oui.
Alors,
oui,
c'est une version que j'ai eu la chance de lire. Gallimard m'a contacté parce que, il savait que je pouvais à la fois prendre des voix d'hommes, de femmes, etc. Alors ça a été génial. Mais je suis contente qu'il existe aussi une version accessible avec une pagination, etc. Alors on va peut-être en quelques mots rappeler l'histoire de Daphné.
Oui, alors vous pouvez me corriger si je me trompe. Mais donc c'est Daphné, il y a deux familles, je pense.
Oui.
Dans la série. Et la famille Bridgerton, c'est composée de la vicomtesse. Et puis, elle a quatre fils et quatre filles, dont une des filles, c'est Daphné, et qui sort en société, qui ne veut pas être contrainte à se marier à quelqu'un qu'elle ne veut pas marier. Puis, elle rencontre Simon Bassett, qui est le duc de Hastings. Et ils décident tous deux de faire semblant d'être en couple pour faire taire un peu les commérages et aussi pour avoir le temps de choisir un prétendant qui leur convient, chacun de leur côté. Donc, c'est un peu ça, je crois.
C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, il y a cette madame Lady Whistledown qui rédige un espèce de petit journal vitriolique, vitriolique sur le milieu et où chacun peut s'y reconnaître. C'est très bien fait. Je veux dire, dans le genre, c'est très bien fait. Je tiens à préciser que c'est très, la série est très différente du bouquin. Il y a des rôles qui n'existent pas dans la série, qui ont été gommés. D'autres, par contre, qui existent. Bon, par exemple, la reine noire qu'on voit dans la série, on ne la voit quasiment. Elle est quasiment inexistante dans la série. Mais c'est pas grave parce que, par contre, il y a d'autres ambiances, d'autres personnages. Mais ça vaut le coup de voir et de lire aussi la série et pourquoi pas de l'écouter. Alors, on va écouter un petit extrait de Daphné. Extrait de Bridgerton.
Chapitre 1. Les Bridgerton sont de loin la famille la plus prolifique parmi les échelons supérieurs de la société. Un tel déploiement d'énergie de la part du vicomte et de la vicomtesse forcerait l'admiration, n'était la banalité du choix des prénoms de leurs héritiers. Anthony, Benedict, Colin, Daphné, Héloïse, Francesca, Gregory et Hyacinthe. Le sens de l'ordre est certes souhaitable en toute chose, mais on pourrait attendre de géniteurs intelligents qu'ils sachent garder leurs enfants dans le droit chemin, sans les classer obligatoirement dans l'ordre alphabétique. En outre, le spectacle de la vicomtesse et de ses 8 rejetons, réunis dans une seule pièce, suffit à vous faire croire que vous voyez double ou triple ou pire. Jamais votre dévouée chroniqueuse n'a vu fratrie dotée d'une pareille ressemblance physique. Nous ne saurions dire ce qu'il en est de leurs yeux, n'ayant pas pris le temps de les examiner de près. Mais tous les 8 possèdent les mêmes traits et la même épaisse chevelure châtaine aux reflets acajou.
Alors, on parle là, chère Faline Beaubier, de Daphné Bridgerton. moi, c'est sûr que je me suis amusée avec Lady Whistledown, évidemment. On n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, je voudrais qu'on évoque cette nouvelle enquête d'Hercule Poirot, écrite par Sophie Anna.
Oui, moi, je n'étais pas au courant avant de me préparer pour l'émission aujourd'hui, mais donc j'ai lu ce livre. Mm-hmm. Quel est le titre, encore une fois?
C'est Meurtre à Kingfisher Hill?
Oui, c'est ça. Alors, Hannah, elle écrit en anglais, donc ses livres ont été traduits. Jusqu'à date, elle a écrit 4 livres avec le personnage principal d'Hercule Poirot. Et c'est la première auteure qui a eu... les héritiers d'Agatha Christie lui ont donné carte blanche pour écrire de nouvelles aventures avec Hercule Poirot. Et elle a dit que quand elle avait 13 ans à peu près, elle a découvert l'œuvre d'Agatha Christie. Elle a dévoré tous ses romans en moins d'un an. Et elle est restée une fan inconditionnelle. Alors... ce livre, je l'ai bien aimé. C'est bon. Peut-être, elle a eu des critiques en disant qu'elle aurait pu peut-être couper 10 ans, une centaine de pages.
Ah, bon.
Donc, c'est assez long. Mais quand même, ma mère, quand j'avais à peu près 13 ans, 12, 13 ans, elle nous ramenait à la bibliothèque chaque samedi. Et c'est parce qu'elle lisait les romans polars. Moi, okay. J'ai commencé à lire Agatha Christie.
Okay,
je trouve que ces livres sont très, quel est le mot, réconfortants.
Oui, c'est ça. Oui, ce sont des livres, c'est comme pour mettre en dessous la couverture un bon feu de bois, un bon petit verre de vin, c'est parfait.
Ouais, c'est ça. Alors,
on va en écouter un extrait avant qu'on se
bien.
Quitte, Faline.
Ok, très bien.
Obéissant à son exhortation, je remontais le couloir lorsque soudain, je me coupai dans mon élan. Du coin de l'œil, je venais d'apercevoir un livre ouvert. Sur l'un des sièges, la couverture vers le haut, de sorte que son titre était parfaitement visible. Était-il possible... Derrière moi, tous, à commencer par Poirot, poussèrent une exclamation d'exaspération. Lorsque je reculai d'un pas, obligeant ce faisant les autres passagers à m'imiter, pour pouvoir examiner de plus près l'ouvrage en question, en effet, je m'étais trompé. Le titre du livre était « Midnight Gathering ». Je clignai des yeux et pris soin de le relire. Oui, c'était bien « Midnight Gathering ». Pourtant, j'avais encore bel et bien la sensation d'avoir lu 2 mots tout à fait différents. « Mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce crétin ?» s'impatienta une voix à l'accent américain en constatant l'embouteillage que j'avais engendré dans le couloir. « Tout le monde attend, là !»« Enfin !» Catchpole, allons-y! » lança Poirot derrière moi. Au même moment, une main de femme s'empara promptement du livre posé sur le siège.
Alors, quel est ce livre? Qu'est-ce qu'il va se passer? Il va y avoir un meurtre, c'est sûr, à Kingfisher Hill. Et ben, il faut écouter ce livre audio accessible pour vous via CAEB. J'imagine que c'est disponible aussi via le SQLA. Mais en tout cas, partout où c'est possible de pouvoir aller chercher ces livres-là.
Oui. Hein,
pour nous faire du bien, voilà. Merci beaucoup, Faline Beaubier. J'aimerais beaucoup qu'on se retrouve encore dans quelques semaines.
Ah oui, bien sûr. Merci.
Je vous en prie. Une belle fin de journée. Au revoir.
Oui, au revoir.
Je sais que tôt ou tard, tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gay pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant à ne plus penser qu'à toi. À guetter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Et si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Je sens ta main se poser sur la mienne. De joie, je crois, je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
On va enchaîner avec des nouveautés. Tiens, je vais commencer par une nouveauté qui a été produite par la maison Lizzie en France, L-I-Z-I-E, mais c'est bien sûr accessible au monde entier et c'est en français, ça s'appelle La Familia Grande. C'est écrit par Camille Kouchner, c'est lu par Iris Funk-Brentano. Il était une fois des gens connus, très connus, dans les milieux politiques et culturels. Il était une fois un politologue du nom d'Olivier Duhamel qui se remarie avec une madame Pizier. Si ce nom-là vous dit quelque chose, oui. Elle était la sœur de Marie-France Pizier, comédienne aujourd'hui disparue. Elle s'appelle Evelyne, donc elle se remarie avec cet Olivier Duhamel, madame Pizier, qui, au préalable, a été mariée en première noce avec un certain Bernard Kouchner, ancien ministre et cofondateur de Médecins sans frontières, qui a découvert à un moment donné, tout ce que ses enfants et surtout l'un d'entre eux, Victor, ont vécu dans la famille reconstituée avec le beau-père Olivier Duhamel. Donc, M. Kouchner, à ce moment-là, n'était plus dans le décor, mais les enfants s'appellent bien évidemment Kouchner du nom du papa. Et c'est pas beau, 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 beau. Il y a Victor, l'un des trois enfants du couple Pizier-Kouchner, qui a été abusé par ce beau-père Olivier Duhamel, grande vedette du milieu de la politique, autrement dit, un intouchable, quoi. Camille Kouchner, c'est la sœur de Victor, et c'est elle qui raconte tout ce qui s'est passé sous le toit du beau-père Duhamel, grand amateur de soirées très arrosées, où l'on voyait notamment les enfants Kouchner se baigner tout nus au milieu de tout le monde dans la piscine. À l'occasion de ces beuveries, ça vous donne une idée. La Familia Grande, c'est ainsi qu'ils appelaient cette famille reconstituée, c'est le nom de ce bouquin. On craignait au moment où il a été écrit qu'il ne soit pas un chef-d'œuvre de littérature, mais plutôt un brûlot assez revanchard. Ce n'est pas le cas, il y a d'ailleurs des critiques qui en témoignent. Dans le Figaro, on pouvait lire « La force d'un tel livre ne repose pas uniquement sur la révélation d'un viol pédophile au sein d'une famille. Il lui fallait aussi une sobriété implacable, une écriture blanche, une construction à droite. » Dans la presse, on pouvait lire une histoire incestueuse à plus d'un niveau. Un extrait.
Direction l'hôpital Sainte-Muse de Toulon. On y retrouve Colin et Luce, mon grand frère et ma petite sœur. Pas franchement fringants, pas tout à fait frais, largement paumés, mais pour une fois, rassemblés. Accolade et silence. Regard suspendu. Inutilité des mots. Le ciel lourd. Chacun guette sans doute la réaction de l'autre. Personne ne sait faire avec cette peine. On se sourit très doucement. Comme un groupe de rock reformé, un peu décrépit, on déambule dans l'hôpital. On cherche la morgue. On y est. Et vous êtes ? nous explose en pleine tête. Les mots se détachent de ma bouche. Ma langue frappe contre mon palais. On m'entend à peine. Les enfants de Madame Pizier. On est ses enfants. Le planton garde le même ton. Lui aussi a l'air crevé. Elle n'est pas là. Non. Pas chez moi. Pas de Madame Pizier. Je n'ai pas de Madame Pizier, je suis désolée. Voilà qui est osé. Ma sœur tente autre chose. Son nom de femme mariée. Trouver notre mère égarée. Suffisait de changer d'identité. Vous pouvez entrer. J'ai tenté de l'arranger, hein, mais c'était pas gagné.
Bon, histoire sordide, ce n'est peut-être pas l'extrait qu'on aurait pu attendre, mais c'est celui qu'on nous a proposé sur le site de Lizzie. Donc, je vous rappelle le titre, La Familia Grande de Camille Kouchner. Le gibier de Nicolas Lebel est lu par Michelangelo Marchese, c'est sorti chez Audiolib. Un résumé très très court, 30 ans après la chute de l'apartheid, les Furies, les déesses du châtiment, viennent à Paris initier leur danse macabre. Qui sont-elles venues venger ?
Il arriva au troisième étage, à l'instant où elle entrait dans un appartement au bout du couloir. Il s'approcha lentement, son poids faisant grincer les lattes anciennes. Son cœur cognait fort dans sa poitrine et dans sa gorge. La porte était entrouverte, comme une invitation. Il déglutit, inspira fort, s'assura qu'une balle était chambrée dans le canon de son arme et poussa doucement la porte. Le timbre ténu d'une trompette ou d'un clairon jusqu'alors inaudible lui parvint, un air sautillant et chaotique. Il risqua un coup d'œil à l'intérieur et découvrit une petite entrée parquetée au mur blanc qui donnait sur 5 autres pièces. « Mégara ? Mégara, vous m'entendez ? » appela-t-il. Le clairon, moqueur, caracola en guise de réponse. Cavicci franchit le seuil. Surpris par la chaleur de l'appartement, il se lança, traversa l'entrée, son arme devant lui, braqua sur sa droite une cuisine vide, puis un salon, et se figea. Au bout de la pièce, dans la clarté bleutée qui s'invitait par la fenêtre, ses talons effilés plantés dans un épais tapis chinois, Mégara lui faisait face, immobile comme si elle consentait enfin à se laisser regarder, le menton tendu vers lui avec arrogance.
Je vous rappelle le titre, Le Gibier, c'est sorti chez Audiolib, ça se retrouve sur quasiment toutes les plateformes de livres audio, donc Le Gibier de Nicolas Lebel, lu par Michelangelo Marchese. Hervé Le Tellier a rédigé, quant à lui, Toutes les familles heureuses, et c'est lu par Thibaut de Montalembert, c'est également une production Audiolib. Un extrait ici. Je n'ai jamais été ni privé, ni battu, ni abusé, mais très jeune, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Très tôt, j'ai voulu partir, et d'ailleurs très tôt, je suis partie. Mon père, mon beau-père sont morts, ma mère est folle. Ils ne liront pas ce livre, et je me sens le droit de l'écrire enfin. Cette étrange famille, j'espère la raconter sans colère, la décrire sans me plaindre. Je voudrais même en faire rire, sans regret. Les enfants n'ont parfois que le choix de la fuite, et doivent souvent, à leur évasion, au risque de la fragilité, d'aimer plus encore la vie. Toutes les familles heureuses dessinent les destins croisés des membres d'une étrange famille. Tiens, tiens, on retrouve Camille Kouchner, où l'amour ne va pas de soi. Dans le style sobre et d'une grande finesse, nous dit-on sur le site d'Audiolib, Hervé Le Tellier, rappelons-le prix Goncourt 2020, nous offre ici son ouvrage le plus personnel et le plus émouvant. Si vous vous demandez avec quel livre il avait obtenu le Goncourt en 2020, c'était L'Anomalie. On nous dit ici qu'avec pudeur, Thibaut de Montalembert fait entendre toutes les variations de ce texte, de l'amertume à la dérision, en passant par la tendresse.
C'était ma sœur. Je dis ma sœur, bien qu'il s'agisse en fait de ma demi-sœur, et même si je n'ai jamais eu la nette conscience d'avoir une demi-sœur. Elle a 7 ou 8 ans de moins que moi, mon adoption par mon beau-père fait que nous ne portons pas le même nom, et nous avons dû nous croiser 12 de fois dans toute notre vie. J'avais toutefois un jour compris qu'elle m'avait fait endosser la cape héroïque et mythifiée du grand frère lointain, vêtement d'apparat imaginaire qui faisait de moi son frère sans que rien, de mon côté, ne parvînt à faire d'elle ma sœur. Mais j'avais renoncé à lui faire accepter cette réalité psychologique élémentaire et déceptive. Cela faisait plusieurs années que nous ne nous étions parlé. « Notre père est mort », m'a-t-elle dit. J'ai regardé par la vitre défiler le paysage autoroutier provençal sans trouver rien à répondre. Nous partagions tous deux une espèce d'absence de père, puisque je ne l'ai jamais vraiment connue. Qu'elle-même avait quitté la demeure du papa vers ses 15 ans pour se réfugier chez sa mère et qu'elle le revit rarement par la suite. Cette case paternelle manquante dans nos deux vies était d'ailleurs la seule matière concrète de nos très rares conversations. La différence entre nous était que j'avais, moi, fini par me résigner à cette absence, tandis qu'elle, qui avait passé son enfance avec lui, n'avait pu s'y résoudre et en souffrait. Ce matin-là, elle avait vraiment perdu notre absence de père. « Notre père est mort », a-t-elle répété. « Ah ? Il est mort quand ?»
Oui, j'aime beaucoup de Montalembert, qu'on a pu voir dans le... Voyons, appeler mon agent, je ne sais plus comment s'appelait la série. Oui, ici, c'était appeler mon agent. Alors voilà, c'est ainsi que se referme cette édition de Tout le monde, de Tout le monde plein les oreilles. Oui, c'est vrai, absolument. Des livres plein les oreilles, animés pour vous, réalisés pour vous par Clotilde Say, avec en régie aujourd'hui Maurice Bolduc. Merci à mes invités ES, Joanne Seymour, Sophie Fauché et Faline Bobier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture. Et n'oubliez pas que les livres, ça peut aussi s'écouter par les oreilles. Salut !